Twain, esquisses anciennes et nouvelles, l'infortuné fiancé d'Aurélia. Les faits suivants sont consignés dans une lettre que m'écrit une jeune fille habitant la belle ville de San José. Elle m'est parfaitement inconnue et signe simplement Aurélia Maria, ce qui est peut-être un pseudonyme, mais peu importe. La pauvre fille a le cœur brisé par les infortunes qu'elle a subies. Elle est si troublée par les conseils opposés de malveillants amis et d'ennemis insidieux qu'elle ne sait à quel parti se résoudre pour se dégager du réseau de difficultés dans lequel elle semble prise presque sans espoir. Dans son embarras, elle a recours à moi. Elle me supplie de la diriger et de la conseiller avec une éloquence émouvante qui toucherait le cœur d'une statue. Écoutez sa triste histoire. Elle avait 16 ans, dit-elle, quand elle rencontra et aima, avec toute l'ardeur d'une âme passionnée, un jeune homme de New Jersey nommé Williamson Breckinridge Caruthers, de quelque 6 ans son aîné. Ils se fiancèrent avec l'assentiment de leurs amis et parents, et pour un temps, leur carrière parut devoir être caractérisée par une immunité de malheur au-delà du lot ordinaire de l'humanité. Mais, un jour, la face de la fortune changea. Le jeune Caruthers fut atteint d'une petite vérole de l'espèce la plus virulente, et quand il retrouva la santé, sa figure était trouée comme un moule à gaufre et toute sa beauté disparut pour toujours. Aurélia songea d'abord à rompre son engagement, mais par pitié pour l'infortuné, elle se contenta de renvoyer le mariage à une autre saison et laissa une chance au malheureux. La veille même du jour où le mariage devait avoir lieu, Breckinridge, tandis qu'il était occupé à suivre des yeux un ballon, tomba dans un puits et se cassa une jambe qu'on dut lui amputer au-dessus du genou. Aurélia, de nouveau, fut tentée de rompre son engagement, mais de nouveau, l'amour triompha, et le mariage fut remis et lui laissa le temps de se rétablir. Une infortune nouvelle tomba sur le malheureux fiancé. Il perdit un bras par la décharge imprévue d'un canon que l'on tirait pour la fête nationale, et 3 mois après, eut l'autre emporté par une machine à carder. Le cœur d'Aurélia fut presque brisé par ces dernières calamités. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde affliction en voyant son amoureux la quitter ainsi morceau par morceau, songeant qu'avec ce système de progressive réduction, il n'en resterait bientôt plus rien, et ne sachant comment l'arrêter sur cette voie funeste. Dans son désespoir affreux, elle en venait presque à regretter, comme un négociant qui s'obstine dans une affaire et perd davantage chaque jour, de ne pas avoir accepté Breckinridge tout d'abord, avant qu'il eût subi une si alarmante dépréciation. Mais son cœur prit le dessus et elle résolut de tenter l'épreuve des dispositions déplorables de son fiancé encore une fois. De nouveau se rapprochait le jour du mariage, et de nouveau se rassemblèrent les images de désillusion. Caruthers tomba malade de l'érysipèle et perdit l'usage de l'un de ses yeux complètement. Les amis et les parents de la jeune fille, considérant qu'elle avait montré plus de généreuse obstination qu'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle, intervinrent de nouveau et insistèrent pour qu'elle rompît son engagement. Mais, après avoir un peu hésité, Aurélia, dans toute la générosité de ses honorables sentiments, dit qu'elle avait réfléchi posément sur la question et qu'elle ne pouvait trouver dans Breckinridge aucun sujet de blâme. Donc, elle recula de nouveau la date et Breckinridge se cassa l'autre jambe. Ce fut un triste jour pour la pauvre fille, que celui où elle vit les chirurgiens emporter avec respect le sac dont elle avait appris l'usage par des expériences précédentes, et son cœur éprouva cruellement qu'en vérité quelque chose de son fiancé avait encore disparu. Elle sentit que le champ de ses affections diminuait chaque jour, mais encore une fois, elle répondit négativement aux instances de tous les siens et renouvela son engagement. Enfin, peu de jours avant le terme fixé pour le mariage, un nouveau malheur arriva. Il n'y eut dans toute l'année qu'un seul homme scalpé par les Indiens d'Owen River. Cet homme fut Williamson Brinkenridge Caruthers de New Jersey. Il accourait chez sa fiancée avec la joie dans le cœur quand il perdit sa chevelure pour toujours. Et dans cette heure d'amertume, il maudit presque la chance ironique à laquelle il dut de sauver sa vie. À la fin, Aurélia est fort perplexe sur la conduite à tenir. « Elle aime encore son fiancé, m'écrit-elle, ou du moins ce qu'il en reste, de tout son cœur, mais sa famille s'oppose de toutes ses forces au mariage. Brinkenridge n'a pas de fortune et est impropre à tout travail, et elle n'a pas, d'autre part, des ressources suffisantes pour vivre à deux confortablement. Que dois-je faire ? Me demande-t-elle dans cet embarras cruel. C'est une question délicate. C'est une question dont la réponse doit décider pour la vie du sort d'une femme et de presque les deux tiers d'un homme. Je pense que ce serait assumer une trop grave responsabilité que de répondre par autre chose qu'une simple suggestion. À combien reviendrait de reconstituer un Brinkenridge complet ? Si Aurélia peut supporter la dépense qu'elle achète à son amoureux mutilé des jambes et des bras de bois, un œil de verre et une perruque pour le rendre présentable, qu'elle lui accorde alors 90 jours sans délai, et si, dans cet intervalle, il ne se rompt pas le cou, qu'elle court la chance de l'épouser. Je ne crois pas que, faisant cela, elle s'expose à un bien grand risque de toute façon. Si votre fiancé Aurélia cède encore à la tentation bizarre qu'il a de se casser quelque chose chaque fois qu'il en trouve l'occasion, sa prochaine expérience lui sera sûrement fatale. Et alors, vous serez tranquille, marié ou non. Marié, les jambes de bois et autres objets, propriété du défunt, reviennent à sa veuve, et ainsi vous ne perdez rien, si ce n'est le dernier morceau vivant d'un époux honnête et malheureux qui essaya sa vie durant de faire pour le mieux, mais qui eut sans cesse contre lui ses extraordinaires instincts de destruction. Tentez la chance, Maria. J'ai longuement réfléchi sur ce sujet, et c'est le seul parti raisonnable. Certainement, Caruthers aurait sagement fait de commencer à sa première expérience par se rompre le cou, mais puisqu'il a choisi une autre méthode, décidé à se prolonger le plus possible, je ne crois pas que nous puissions lui faire un reproche d'avoir fait ce qui lui plaisait le plus. Nous devons tâcher de tirer le meilleur parti des circonstances, sans avoir la moindre amertume contre lui.